La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com.
I know how it sounds.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Hey, salut!
Hello, hello!
Hello, hello, coucou!
Hello, hello, coucou! Ah, belle soirée qui débute encore une fois en bonne compagnie, Max.
Absolument, c'est toujours le fun d'être ici ce soir avec toi. Et ce soir, on a un invité qu'on aime beaucoup.
Et oui, que tout le monde aime, en fait. Je pense qu'on n'a pas reçu aucun commentaire négatif à propos du... En fait, on ne reçoit pas vraiment de commentaires négatifs. Là,
non, ça arrive une fois de temps en temps, mais...
Une fois de temps en temps.
On les appelle personnellement dans la nuit.
Je trouve qu'on ne parle pas assez de sexualité, pourtant.
Ouais, c'est ça. C'était bizarre, celle-là. Hein.
Pourtant, la sexualité, c'est plein de choses. Donc, comme toujours, on aime savoir d'où est-ce que vous nous écoutez via le 418-670-9098. Notre invité est en live sur TikTok. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la page de Choix Radio X sur TikTok. Donc, on va faire monter le nombre d'abonnés et vous pourrez ainsi voir du contenu là, préparé par nos collègues.
C'est vrai que la sexualité, c'est partout. J'ai écouté un documentaire sur Freud hier, puis notre invité va sûrement corroborer tout à l'heure. Lui, il disait que tout est sexuel.
Hein?
Toute action dans la vie est un acte sexuel parce que ça crée du plaisir.
Objection, votre honneur!
Ah! Oui, on dirait que je suis pas d'accord avec ça.
Ben, c'est ce que lui disait, mais c'est un obsédé, un cocaïnomane notoire. Là. On va
parce
savoir.
Il y a des gens quand même qui peuvent avoir du plaisir dans la vie, mais que ça n'a aucun lien.
Non, mais juste le fait de manger, c'est un acte sexuel en soi.
Fais-moi penser tout à l'heure de parler du triangle.
Du triangle? Quel triangle?
La technique du triangle.
Celui des Bermudes?
Je te parle de ça tantôt. Restez à l'affût.
Okay.
Restez à l'écoute. OK, ben je suis quand même curieuse d'aller au bout de ça. J'ai quasiment envie d'intégrer tout ça notre invité pour qu'on puisse...
On y va-tu?
...en parler en profondeur!
Le doc.
Le thérapeute compatissant bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue, toujours un plaisir de te retrouver ici avec la sexploratrice Max Lacasse.
Salut.
Gratitude.
Oh, quelle est votre gratitude de la journée?
Moi, c'était le goût de mon café qui était succulent ce matin.
Ouais, moi, j'ai fait. Je me souviens, ça, c'est un désastre. Là. Mais c'est une gratitude quand même. J'ai acheté le pâté, la tourtière de Michel Barrette.
Oui.
Je tentais le travail aujourd'hui, j'ai fait cuire ça pendant 9 heures de temps.
Oh.
9 heures, mais la préparation, la mettre dans le four, ça sent bon dans la maison. Puis finalement, c'était pas mangeable.
Oh.
Mais.
Puis t'as de la gratitude?
Ben, c'était le fun de le faire ça. Ça sentait bon dans la maison. Ça va peut-être être meilleur au micro.
Moi, j'ai de la gratitude pour mes fous de la bouffe.
Ah, c'est-tu bon, ça?
Hey, je suis devenue ambassadrice en plus. Hé là là, faut que je parle de ça bientôt, là.
Pour vrai?
D'ailleurs, avec le code promo de notre cher collègue et amoureux. Puis oui, 30, là. T'as 30% de rabais sur ta première commande. C'est des clients ici. On peut bien en parler. Mais oui, c'est des clients. Mais vraiment, c'est toute une expérience, cette affaire-là. Mais t'as ton repas déjà préparé, là. Tu fais que le faire chauffer.
Ouais, c'est cool. Puis c'est très bon, ça a l'air.
Mais tellement. Puis les portions, j'ai fini même pas.
Puis quand t'en manges, est-ce que t'as l'impression que c'est un acte sexuel?
Non, c'est ça. OK. Là, on va aller tout de suite droit au but.
Doc. Découragé.
Doc, est-ce que tu es d'accord avec ce que Freud dit via Max?
Freud est mort!
Freud est mort!
Donc là, c'est le mort.
Depuis longtemps même.
Mais c'était pas tout à fait exact. C'est pas tant sexuel son affaire, c'est la libido. Donc la libido, c'est peut être véhiculé et c'est généralement connu par l'aspect sexuel, mais ce n'est pas que le sexe.
Okay.
C'est l'élan de désir, l'érotisme, le rapport au plaisir et d'autres chapitres de livres très complexes.
Ouais,
mais Freud associe ça vraiment à l'érotisme, la sexualité. Ben en fait, la libido et tout acte qu'on pose dans la vie serait lié à ça.
Ben selon, dans son modèle, il y avait entre autres ça dans la structuration du moi. Là, il y avait des espèces de pression du ça pulsionnel qu'il fallait ordonnancer.
Ouais, c'est ça.
Puis entre autres, dans ces pulsions-là, il y avait la pulsion de plaisir, la libido. Puis il y avait aussi la pulsion de mort. Mais ça se trouvait être plus une philosophie des maladies qu'une véritable psychologie avancée. T'sais, il s'essayait à faire un modèle philosophique sur ses connaissances médicales qu'il avait, puis essayait dans le milieu de créer un modèle psychologique.
Est-ce que ces théories, c'est des concepts que vous vous servez encore aujourd'hui?
Il y a plusieurs bons concepts encore en psychanalyse et en psychodynamique.
Parce que c'est le père de la psychanalyse quand même.
Oui, c'est ça. Fait qu'il y a eu plusieurs bons concepts, mais étant donné que c'était un courant philosophique qui modélisait, il proposait beaucoup de choses, ben avec l'évolution des décennies qui ont passé, on a écarté certaines hypothèses, on a retenu certaines, puis il y a des gens qui ont dérapé, bien sûr. Hein.
Mm-hmm. Ouais.
Quand on est dans le monde de l'interprétation, c'est pas un fait objectif. Donc, malheureusement, il y a eu des excès.
Donc, il a quand même posé les premières briques du grand mur de la psychologie.
D'une certaine manière, oui. Là. Il était bien content de s'attribuer lui-même ce titre-là, d'ailleurs.
Oui, oui. Il était très imbu lui-même.
Parce qu'il était pour... d'ailleurs, là, il n'était pas tant plus pour le couple que la vie en solo. Hein? Je pense qu'il était assez...
Je n'ai pas assez de connaissances là-dessus.
Hmm.
Mais lui-même, il se reposait beaucoup sur d'autres penseurs avant lui.
Ouais.
Il y avait les techniques d'hypnose, notamment, là, avec Mesmer. Pas le Mesmer du Québec, là, c'était un autre Mesmer à l'époque qui faisait de l'hypnose tirer des théories sur le magnétisme animal. C'est drôle, hein, ça a été inventé, ces théories-là, en même temps qu'ils ont fait des découvertes sur l'électromagnétisme en physique. Puis au même moment, ils ont transposé cette théorie-là dans le magnétisme animal qui est devenu l'hypnose. Fait qu'il y a toujours un pont, ça, entre les théories physiques puis les théories en psychologie.
Ah ouais.
Regardez aujourd'hui, là, avec les thérapies quantiques.
Mais la métaphysique...
Oui, c'est ça.
Carrément.
Mais ça date de l'Antiquité, la métaphysique.
Oui, mais aujourd'hui, on l'attribue beaucoup aussi à la loi d'attraction, puis toute cette... Laurence Lévesque, qui est une collaboratrice, d'ailleurs, qu'on avait là, souvent dans le mythe,
ouais.
Puis c'est tellement intéressant.
Mais au-delà de ses recherches sur l'aspect sexuel de l'être humain, il fait des recherches aussi sur les rêves, si je ne m'abuse. C'est un champ d'expertise qu'il a tenté de maîtriser au fil de sa carrière.
Ben, c'est un sujet très intéressant, ça, le travail sur les rêves. Mais
avec
lui,
Carl Jung.
Ouais, ben, l'approche, par contre, que lui avait pris à l'époque, c'était d'analyser les rêves comme si tous les rêves avaient une symbolique archétypale prédéfinie. Comme, mettons, si tu rêves un cheval, ça veut dire que... Comme s'il y avait un dictionnaire universel, tu sais, des rêves. Aujourd'hui, avec les données en neurosciences, on va davantage utiliser le travail des rêves en thérapie en recomposant après coup une histoire.
Mm-hmm.
Donc, comment toi, tu te relies aux composantes de ton rêve? Mais il n'y a pas un dictionnaire universel pour tout le monde.
Non, effectivement.
Mais c'est souvent les thèmes qu'on travaille à l'intérieur de nous, là, qu'on va redigérer, entre guillemets, pendant la nuit. Puis là, après coup, on refait une histoire.
Donc, les rêves sont importants dans un contexte de psychothérapie?
Ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. Moi, je l'utilise notamment quand les gens, ils me parlent de ça en thérapie. Je ne vais pas fouiller volontairement pour creuser leurs rêves, mais il arrive que les clients me disent « Hey, j'ai un rêve récurrent » ou « Je rêve tout souvent un tel truc ».
Y a-t-il un truc pour tenter d'essayer? Tu sais, quand on fait un rêve récurrent, justement, oui. Là, qui n'est pas le fun,
oui.
Est-ce que t'es apte à donner des conseils et des
oui.
trucs pour tenter de ne plus rêver? À ça? Ou...
Ben, moi, j'aurais le goût de dire que si vous avez des rêves récurrents, c'est que votre esprit essaie de digérer un thème là, ou plusieurs thèmes. Parce que les souvenirs, ce sont des traces hein, à l'intérieur de notre cerveau, là, des circuits. Fait que quand on est dans un état affectif, d'une certaine manière, il est possible que pendant la nuit, notre cerveau il essaie encore de faire du sens avec ces thèmes-là. Fait que le truc, ça serait au réveil peut-être, ou quand ça vous adonne dans votre activité de la journée, faites du journaling, écrivez là-dessus. Puis essayez de vous reconnaître dans chaque composante du rêve. Comme par exemple, s'il y a une
c'est donc tu rêves que tu perds tes dents, mettons.
Oui,
là.
Oui. OK.
Ce qui est vraiment pas fun.
Dans une théorie freudienne, on pourrait interpréter ça comme étant une espèce de castration qui empêche d'avoir le rapport au plaisir oral.
C'est à cause de la mère.
Non, OK. Non, mais là, c'est une supposition.
Mais
là,
aujourd'hui, ça, moi, j'utiliserais davantage ça en disant, OK, c'est dans quel état d'âme que tu es dans ton rêve? Là, tu me dirais, mettons, un mot pour décrire ton état d'âme. Je dirais, OK, les dents, eux autres, ils seront dans quel état d'âme si tu avais à les attribuer. Hein. Puis là, à force de se promener dans le rêve et d'attribuer des états émotionnels, de faire un récit, puis de demander comment ça finit, ben, on est en train de modifier la plasticité cérébrale. À toutes les fois qu'on rappelle un souvenir, on le modifie. Donc, raconter le rêve, lui attribuer des effets, on va dire, affectifs, refaire un sens dans le scénario, ça modifie le souvenir et la charge affective.
Mmh.
Donc, on le modèle à ce qu'on aimerait qu'il devienne pour peut-être se guérir d'une blessure ou peut-être avancer ou cheminer dans une certaine direction la plupart du temps?
Peut-être, mais dans les principes de la logothérapie, là, ça, c'est la thérapie de la quête du sens. C'est qu'on va essayer ouais. de chercher une trajectoire. Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme information sur ma vie, là, d'où j'arrive et où je vais? Puis quand on a la réponse à ça, quel est le sens de ma vie, D'habitude, c'est qu'on est ancré dans une bonne connaissance de nos valeurs. Hein, on est capable facilement de faire des choix difficiles.
Doc, en semi-lien avec ça, hein, parce que moi, je pitche un peu partout, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on se... Disons qu'il y a quelque chose qui nous pèse, OK, en lien avec notre partenaire. Je sais que toi, tu as tendance à offrir les outils et la façon d'aborder le sujet avec son partenaire et tout ça.
Oui.
Mais on a déjà eu des invités qui disaient que c'était pas nécessairement bon de partager des choses qui nous dérangeaient à notre partenaire, qu'on devrait plutôt ravaler,
ouais,
et y aller avec quelque chose de plus positif. Parce que semble-t-il que les neurones feraient des chemins et si on fait que chialer, ben dans notre cerveau, on va que développer des neurones, des chemins neuronaux là, qui,
ouais,
vont nous mener vers...
D'une certaine manière, oui. On est meilleur demain pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui pendant la journée. Fait que c'est, dans la nuit, va se consolider les connexions du cerveau qui ont été utilisées pendant la journée. C'est la base de l'apprentissage. Hein.
Donc, c'est pour ça qu'il faut rester le plus possible dans le positif pour tenter de...
Pas forcément.
Pas forcément. Parce sais que tout n'est pas pour la...
Ouais, parce que des fois, c'est pas le temps d'être heureux. Hein. Des fois, c'est le temps de s'occuper de ce qui ne va pas pour en libérer.
Okay. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus.
Quand on s'occupe de ce qui ne va pas, qu'on nettoie...
c'est dans la façon
c'est
de
pas
communiquer.
Agréable. C'est ça. Fait que moi, je l'aurais twisté dans la manière de dire il faudrait... un moment donné, faire la différence entre déverser puis partager.
Ah.
Parce que si je déverse tout sur mon partenaire, mes insécurités, mes doutes, mes craintes...
Les neurones se développent comme ça, puis au fil du temps, ça va être que...
Oui, puis ça contamine l'autre là, avec les insécurités. Alors qu'un partage, c'est informer votre partenaire de ce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Et cette nuance-là, elle est difficile à faire chez beaucoup de personnes parce que je pense que la plupart des gens ont du mal à faire la différence entre déverser et partager, ouais, justement parce qu'ils ne sont pas habitués à parler de leur émotion à la base.
Exact. Puis le truc majeur pour le différencier, c'est se posséder soi-même. Parce qu'on ne peut pas partager quelque chose qu'on ne possède pas. Et que ça veut dire qu'il faut faire un peu d'introspection, de connaissance de soi, se tenir de l'intérieur, regarder ses insécurités. Puis là, on va faire un choix. Est-ce que je partage ça ou est-ce que je le garde pour moi? Parce que c'est pas toujours le temps de partager à notre partenaire toutes nos...
Donc,
nos
c'est renouer avec l'inconscient un peu, c'est ça?
J'haïs ça, ce mot-là. Moi, je dirais ce qui est non conscientisé.
Pourquoi t'aimes pas ce mot-là?
Parce que ça appartient au champ du savoir psychanalytique. Puis ça crée beaucoup de confusion là, quand on veut définir des concepts. Donc, je préfère parler de non-conscient et non pas de inconscient. D'ailleurs, quand tu demandais à Freud, c'est quoi l'inconscient? C'est quoi qu'il répondait?
Que c'est là où tout se passe?
Non, il disait, je sais pas c'est quoi l'inconscient.
OK.
Pourtant, c'est un des fondements de sa théorie.
Mais c'est ça. Il disait que c'était là où est-ce que tout se passait réellement.
Oui, mais il disait qu'il savait pas c'était quoi. Il était pas capable de le définir.
Il était pas capable de le définir.
Mais c'était là que ça se passait.
C'est ça. Mais il pensait que ça influait sur tout.
Fait que c'est ça. Aujourd'hui, avec des modèles, on pourrait dire que moi, je décide de choisir parce que on choisit nos modèles en psychologie. Hein. C'est pas une donnée scientifique brute. Tous les modèles sont critiquables. C'est pas une science comme la physique ou l'électromagnétique ou la chimie. Là, t'sais. Fait que on tend, par contre, avec les années, à tendre vers de plus en plus de rigueur. Puis quand on parle de choses non conscientisées, ça veut dire que on peut tout d'un coup s'intéresser à éclairer ces mécanismes-là à l'intérieur de nous pour restructurer. Mais là, je suis rendu loin. Là.
C'est très intéressant. C'est toujours très intéressant. Et juste avant d'aller à la pause, parce que je pense qu'on va y aller bientôt déjà.
C'était pas tantôt de ça qu'on était censé parler.
Mais je vais vous amener tout de suite à mon triangle.
Oui, vas-y.
Il y a une espèce de mode présentement sur les réseaux sociaux et j'aimerais savoir si ça peut être ou non appuyé par les psys finalement. Et ce serait la technique du triangle. C'est une manière de montrer son désir lors d'un premier rendez-vous, mettons. Donc, face à l'heureuse élue, l'heureuse ou l'heureux élu finalement, tu regardes son œil, tu regardes un des yeux, tu regardes son œil, ensuite l'autre, ensuite ses lèvres, tu reviens à l'œil, le premier œil, le tout en ouvrant... en entrouvrant légèrement la bouche.
Ouais, mais là, t'envoies plein de micro-signaux de désir.
Ouais, je suis un peu d'accord avec Paul.
Donc, ça peut fonctionner.
Ben, ça se fait pas naturellement quand le désir s'empare de toi.
Ouais,
tu mords un peu les lèvres, tu deviens avec le regard.
Ben, moi, j'ai jamais fait de la technique. J'ai jamais
passionné.
Regardé un œil, la bouche, un œil.
Non, mais là, tu déconstruis le phénomène, mais peut-être que sans t'en rendre compte, c'était à peu près ça que tu faisais. Peut-être un carré à la place d'un triangle ou un cercle, va savoir.
Bon.
On va fight à soir dans le lit.
Écoute, je sais pas, parce que moi, de toute façon, si je suis en rendez-vous, je m'assois au bar. Oh,
fait que tu le regardes de côté.
Regarde de côté.
Ouais, c'est bien mieux.
Puis là, ben, tu peux flatter une cuisse au passage.
Comment ça, c'est bien mieux? J'ai l'impression que c'est le pire, moi.
Hey, c'est bien moins intimidant.
Ben oui, c'est parce que tu vis une expérience commune en plus, puis tu es proche de la personne. T'es pas en opposition, tu sais, en duel, à se regarder face à face, l'autre bord de la table. Puis la personne est accessible. Vous pouvez
interagir.
S'il y a affinité, avoir des petits accoquinements.
Oui.
C'est bien mieux, là.
Ben, ce que je trouve le fun aussi, c'est que bon, tu peux commencer par un simple verre. Si tout va bien, vous poursuivez avec le repas, vous pouvez même prendre un plat à partager, ça peut être super le fun. Mais mettons que ça se passe pas trop bien, que t'es mal à l'aise ou quoi que ce soit, ben le serveur ou la serveuse qui est au bar peut aussi interagir avec vous.
Là, tu pars!
Ouais.
Ça va.
Je m'accorde à ta pensée parce que c'est vrai que ça peut être longtemps un souper.
Ouais. Ben, juste un verre face à face, ça peut être très intimidant. Et on le sait, une première rencontre dans la vie d'un humain, ça fait partie des situations les plus anxiogènes, si bien qu'il y a des gens qui refusent de rencontrer passer un certain âge, ou quand ça fait longtemps qu'ils ont été en couple, ils deviennent célibataires, ils savent plus trop comment s'y prendre et tout. Ils préfèrent rester seuls que d'affronter tout le stress lié à une première rencontre. C'est triste.
Mais ta technique, t'as du triangle, tu penses pas qu'il y a des gens qui vont nous entendre et qui vont dire « OK, fait que je vais l'essayer, même si je le sens pas, je vais l'essayer. »
Peut-être. Mais dites-nous si ça fonctionne. Technique du triangle. On garde un œil, l'autre œil, la bouche.
Mais il faut que ce soit fait avec subtilité, parce que sinon, mais vous allez juste avoir l'air d'un maniaque.
C'est sûr. Il ne faudrait pas non plus que vous pensiez que ça garantit un résultat.
Non.
Mais je voulais savoir, je voulais avoir ton avis. Oh,
ben c'est sûr, je ne suis pas synergologue, puis je pense que tu connais mon avis sur la
Manuel Constant.
Il y a plusieurs affirmations qui parfois peuvent être un peu étirées, je trouve, dans la synergologie. Mais ça reste que, de manière générale, on peut tirer des indices de la communication non-verbale.
Absolument. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice. On va tout de suite aller à la pause et rester avec nous puisqu'on tombe directement dans le vif du sujet. Au retour, qui est les dick pics. La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes de retour avec la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X en compagnie de Belle, Max et Dr Simard, psychologue.
Bonjour, veux-tu que je tienne la cellule approche? Là,
non.
En tout cas, OK. Hey, là, tu sais qu'on va parler d'un sujet sensible.
On vous explique, en fait, oui, on est en live sur TikTok, sur la page de Dr Paul Simard, psychologue, c'est également sur la page de la Sexploratrice. Et ce soir, on parle de dick pic.
En français?
Fait, j'avais envie de... c'est des photos de sexe en érection.
Ah!
Bon.
J'avais envie d'avoir l'avis de Dr Paul Simard là-dessus, puisque un récent sondage soulignait que 78 % des femmes de 18 à 34 ans et 69 % des femmes de 35 à 54 ans ont déjà reçu une dick pic, c'est-à-dire une photo de sexe masculin. Donc, une personne détenant un pénis en érection. Et ce, sans l'avoir demandé, alors que seulement 17 % des hommes admettaient l'avoir déjà fait.
Mm-hmm. Oh, fait qu'il y a une incohérence.
Il y aurait des hommes qui en envoient beaucoup, peut-être.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça qui arrive.
Ça serait ça l'hypothèse.
C'est
des dick pickers en série.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Moi, j'ai pas reçu une dick pic. Tu sais, je me vantais, là, ah, j'en reçois pas, moi, de ça, blablabla. Eh bien, cette nuit...
T'as reçu d'autres choses.
Réjean a décidé... de me complimenter.
C'est gentil.
En fait, Réjean, en mars de l'année passée, avait déjà écrit « Allô, princesse ». Réjean est tombé dans mes spams. Il se trouve que ce matin, parce qu'il y a comme une boîte, il y a comme une deuxième boîte là, sur Facebook, sur Messenger. Tabarouette, j'ai réalisé que j'en avais une tonne là-dedans. Mais là, il y a Réjean.
Allô, princesse.
Qui, à minuit quelque, là, cette nuit, lui, m'aurait écrit « Allô, princesse, tu es merveilleuse ». Avec une photo de lui en chess.
Eh oui.
Et okay. Là, Réjean, mon doux Réjean, mais merci pour le compliment, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Il est probable, et là, ce qu'on ne peut pas garantir en psychologie quand on n'a pas analysé complètement une personne. Fait que de manière générale, quand une personne est en état de désir à l'intérieur d'elle, ça va altérer sa prise de décision. Donc, les gens vont prendre une décision d'agir souvent de manière conforme à leur désir. Puis là, il y a des recherches qui ont démontré que les hommes, de manière générale, surévaluent les signaux d'ouverture des femmes.
Non, mais là, il n'y avait aucune ouverture, là. On n'était même pas amis.
On pourrait dire que c'est de la méga surévaluation des signes d'ouverture.
Ça, ça va pas,
mais,
là.
Mais vu que tu es une personnalité publique, peut-être que le fait de te voir sourire en public sur une photo, lui, ça a été associé à l'intérieur de lui. Oh, je suis excité. Elle fait un sourire. Je vais l'aborder. Ouais. Ben, tu vois, c'est comme ça que ça pourrait s'expliquer.
Puis les gens, là, ils regardent pas ma page Facebook là. C'est clair que je suis en couple.
Pas mal, oui. Mais surestimer. Surestimer les signaux féminins, ça, je pense que. Ah, ouais, le d'ouverture féminin, je pense que c'est le cas chez beaucoup d'hommes, puis d'autant plus sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas l'interprétation de la communication en réel.
Dans les emojis, également.
Dans les bars aussi, puis les emojis, ça peut être vraiment mal interprété aussi.
Même entre collègues, je pense, ou entre amis, ou dès que. Oui, ça peut être en sens inverse, mais c'est beaucoup. Dès qu'une femme est sympathique avec un homme, oui. On dirait qu'il y a comme une ouverture qui se crée de votre côté. Pourquoi?
Oui, parce que les hommes ont tendance à surévaluer, comme si c'était une opportunité à ne pas rater. Étant donné que c'est rare, c'est dur de comprendre à quel point les hommes, entre nous, parfois, on vit dans un monde assez austère, là. On n'est pas très chaleureux les uns vers les autres, les hommes.
Mais surtout depuis le mouvement MeToo, là.
Ah, j'ai pas vu de lien.
La séduction a changé, non?
Non, seulement dans certaines micro-cultures.
Ouais.
OK.
Je sens pas que ça a vraiment changé, mon nom.
Moi, en tout cas, pour la clientèle de Montréal, beaucoup, là.
Ouais, c'est ça.
Ben, Montréal,
les hommes se sont beaucoup remis en question, savent trop comment aborder, ils ont peur Ils ont peur d'être trop. C'est
surtout dans les métropoles.
Ah, ouais.
Et dans les cultures universitaires. Dans les cultures médiatiques également, sur les aspects de la scène ou des arts et spectacles. Ceux qui sont. C'est comme un peu une branche de la culture qui ont été très immergés par ces enjeux-là. Mais moi, j'ai été très surpris également avec un collègue David à Paris. Là,
oui.
On discutait avec des gens un peu de la population de n'importe qui là-dessus. Ils savaient pas c'était quoi. Là.
Je sais, mais ça, on dirait que je comprends pas qu'ils savaient pas c'était quoi.
Question de culture générale. On s'abreuve pas tous aux mêmes sources d'informations.
Non, mais ça... je veux dire, le mouvement MeToo, ça fait partie des médias.
Mais non. Le féministe, tu penses-tu que c'est populaire, le féministe?
Non, mais on en parle. Je veux dire, ça fait partie des nouvelles traditionnelles.
Puis, il y a des femmes qui ne savent pas ce que c'est. Fait que c'est vraiment une question de culture.
OK. Là... En fait, ça peut être criminel. Là, moi, j'ai répondu à Jean.
Oui,
j'ai
ça, demandé... c'est vrai, t'as raison.
J'ai demandé, j'ai dit à quoi t'as pensé? Pourquoi tu m'envoies ça? Tu t'attends à quoi comme réponse de ma part?
Est-ce criminel d'envoyer un chest?
Sans consentement?
Ouais.
Non, je pense que c'est les organes génitaux qui a quelque chose.
Les organes génitaux, en tout cas, oui.
Ça peut être considéré comme un abus.
Les organes génitaux, c'est de la cybersexualité criminelle.
C'est une cyberagression.
Oui, je pense que ça peut quand même être considéré.
Faudrait inviter un légiste là-dessus. Hein.
Je sais que tu peux. Actionner, en tout cas, tu peux poursuivre quelqu'un. Si, par exemple, il y a une artiste québécoise là, qui avait repartagé sur les réseaux sociaux ce qu'elle avait reçu.
Le repartage, tu n'as pas le droit de le faire. Même si ce n'était pas souhaité.
Elle se retrouvait en totale illégalité d'avoir repartagé ça pour le dénoncer.
C'est
elle qui se retrouvait dans le trouble. Donc,
c'est ça. Parce que rendu là, ça frôle un concept. Des fois, je travaille ça en thérapie, là, cette nuance-là. La différence entre dénonciation et délation. T'sais, la délation, c'est on va faire en sorte d'identifier des coupables sur la place publique. Là, on le dénonce. C'est pas juste nommer le phénomène qui se passe. Là. C'est l'individu qu'on pousse sur la place publique. Puis on est proche de la vengeance à ce moment-là pour réparer nos frontières et non pas dans un acte réparateur. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont tellement tannées de se faire harceler par ce genre de comportement-là qu'à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Puis là, je trouve qu'ils vont faire ce genre de geste-là.
Mais ils vont souvent faire ça envers des personnes dont ils savent que la réponse sera peut-être pas... parce que pour vrai, j'en recevais pas vraiment. Puis je pense, je me disais, les gars savent que je vais les revirer de bord tout simplement. S'ils m'envoient ça, je vais l'envoyer promener. Là.
Mais elle est intéressante, la nuance que tu fais entre la délation et la dénonciation. La délation, c'est comme s'il y avait un aspect vengeur au concept. Et la dénonciation, pour moi, on pourrait faire le parallèle avec... on voit quelqu'un chauffer sous. Sur la voie publique, puis là, il y a un devoir citoyen, c'est de dénoncer sans savoir qui fait le crime, autrement dit.
Ouais.
Mais ça peut être considéré comme de l'exhibition sexuelle.
Oui, il y a des gens que ça va être un fétiche très puissant pour eux. Et encore une fois, on revient à l'idée de consentement ici.
Exact.
Pensez-vous que dans la grande partie des cas, ceux qui envoient des dick pics, c'est pour espérer recevoir une photo de la femme en retour ou c'est de la pure exhibition?
Ça peut être les deux.
Parce que je pense que ça dépend des cas. Hein?
Ouais, parce que jouer avec les interdits, c'est une des compétences plutôt de la séduction. Parce que c'est vrai que ça allume le désir, jouer avec la limite de l'interdit. Parce que, on ne sait pas si ça va être correct, on ne sait pas si ça va être bien. Les gens, ils se construisent une charge érotique avec ça. Sauf que là, le problème, ça va être le manque de réciprocité ici. Là. Je discutais avec Anne-France Goldwater un moment donné, puis elle disait qu'elle allait aimer ça, recevoir ça.
J'adore ça, recevoir
ça. Elle était très sexuelle là, dans ses propos. Puis elle disait que quand elle recevait ça, elle disait « Waouh, le gars, genre, dans le fond, il veut me dire qu'il exprime son désir. » Donc, elle, dans son système de valeurs et dans sa manière de rapport à la sexualité, c'était correct. Mais si on se place dans une autre perspective où une personne a subi des abus, une personne a vécu un rapport complexe avec les pénis, justement, fait que le fait d'en recevoir un de manière impromptue, non consolidée, pas préparée, la transition est tellement grande que ça fait bang, ça peut créer ou réveiller des traumatismes.
Là, tu es en train de me dire qu'il y a des femmes qui aiment ça recevoir, finalement.
Bien sûr. Ben oui, c'est clair oui.
Hein? Pense qu'elles sont j'ai jamais entendu aucune femme me dire « Hey, j'ai reçu une dick pic, je suis tellement contente. »
Ben voyons.
Peut-être qu'ils te le diront
jamais.
Pas non plus.
Dick pic non sollicité, là. Mm-hmm. On parle de photos non sollicitées.
Exact, c'est ça. Parce qu'il faut construire aussi ça, des critères. C'est drôle, le même comportement va être accepté si on trouve la personne attirante, mais il va être pas accepté si c'est une personne pas attirante.
Mais non, mais s'il y a un contexte autour de la dite photo et qu'elle est sollicitée, moi...
Non, il y a des gens qui ont un rapport avec le fait d'être plus voyeur. Puis ils vont l'interpréter de manière totalement érotique, puis qu'ils vont l'apprécier. Il ne faudrait pas penser que systématiquement, c'est un geste répulsif.
Je pensais que c'était généralisé, là, surtout avec les articles que j'ai lus, les femmes autour de moi. Là, j'en connais pas une qui est flattée de recevoir une dick pic.
Ça dépend. Si une personne est inondée, on va dire que c'est sûrement pas la même chose que de manière ponctuelle. Mais le rapport à l'équilibre et au déclencheur érotique des gens, c'est souvent plus complexe que ce qu'on pense.
Hey, je serais curieuse. Y a-t-il des femmes qui peuvent nous partager leur... ressenti par rapport à ça?
C'est une excellente question.
Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de faire ça. Là,
faites pas ça, les gars.
Je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. C'est méga whack.
Mais ou est-ce que, messieurs, est-ce que parmi vous, il y en a qui pourraient nous écrire juste nous dire « Hey, moi, je le fais, puis ça marche. » Quel type de réponse tu reçois? Comment tu t'y prends? Je veux dire, tu connais pas la fille, tu envoies une dick pic, puis tu reçois un message positif en retour?
Moi, l'éducation que je fais aux gens en thérapie, quand ils me parlent de ça, c'est de dire que c'est très malhabile en termes de rapport sociaux.
Mais je trouve ça dégueulasse, puis je suis pas toute seule à penser comme ça. Là.
Ah, ben tu vois, moi, j'utilise le rasoir d'Anlon par rapport à ça. Le rasoir d'Anlon, c'est un principe de philosophie qui nous dit que plutôt que de penser que les gens sont mal intentionnés, on va juste dire qu'ils sont malhabiles. Fait que c'est vraiment pour commencer à soulever l'hypothèse que ça se pourrait-tu que t'aies un petit peu dérapé là, ici là, sur cette affaire-là? Puis là, on va commencer à réfléchir pour forger une compétence. Parce qu'en thérapie, on ne peut pas bousculer les personnes en lui disant t'es correct, pas correct. T'sais.
Un peu comme Guillaume Lemaitre-Vierge, dans le fond.
Je sais pas, j'ai pas suivi. Là. C'est quoi le débat?
Bon, je pense qu'on n'ira pas là, mais est-ce que ça se peut qu'au-delà de le désir, au-delà du désir, quand on envoie une dick pic, quand les gens envoient une dick pic, au-delà du désir d'exhibition aussi, qu'il y a un lien avec l'attachement, c'est-à-dire que peut-être que pour les gens qui envoient ça, de se mettre à nu comme ça, ça leur permet de penser que ça va créer un lien plus profond avec la personne parce qu'ils se dévoilent complètement?
Ça doit dépendre des cas.
Ben, j'irais peut-être vers un attachement désorganisé à ce moment-là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans lequel les rapports sociaux ne seront pas très codés de manière délicate et sécuritaire et progressive. Ça, la démonstration que toi, tu nous expliques, c'est plus une immersion dans l'intimité. Genre, c'est comme tout ou pantoute.
Oui.
Ça, ça me semble être un indicateur de manque de sécurité affective. Il y a un manque de nuance ici, là.
Donc, est-ce qu'on pourrait faire le parallèle, par exemple, avec une enfance dans laquelle il y aurait eu un manque?
Ben, c'est pour ça que les attachements, ça remonte tout à l'enfance.
Dans un passé, qu'il y aurait eu un manque, puis c'est pour ça que la personne serait comme prédestinée à faire ça.
Il y en a qui en envoient vraiment à des purs inconnus, puis d'autres qui en envoient à des gens qui connaissent peut-être, ou en début de relation, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai vu des relations se terminer à cause de ça. Oui.
Mais si on l'envoie à des gens qu'on connaît, on le demande-tu, mettons? Dans les débuts de relation, là, quand tu commences à dater avec une fille en ligne, est-ce que tu lui demandes?
Mais oui, il faut qu'il y ait un contexte.
Ouais, ça pourrait être une belle discussion sur c'est quoi qui allume, c'est quoi les schémas érotiques.
Exactement, ça, les schémas érotiques, on a fait un épisode complet là-dessus, d'ailleurs. Mm-hmm.
Ben oui,
ça vaut la peine de découvrir votre schéma érotique.
Oui, parce que instrumentaliser le rapport sexuel, si ça fait partie de vos codes, pourquoi pas? Mais là, on est dans l'idée du consentement.
C'est vrai que le schéma érotique sexuel, ça pourrait être quelque chose d'excitant peut-être, mais s'il y a déjà un lien de créer entre les deux personnes.
C'est la réciprocité, dans le fond, qui va être un élément recherché par les gens.
Puis là, mon Régent, là, tu penses qu'il voulait quoi, Régent? Il m'a pas répondu.
Il t'appelle Allô Princesse, puis t'envoie une photo de son chest. Je pense qu'il voulait faire de toi sa reine. Là.
C'était très idéalisé, puis ça semblait...
Malhabile.
C'est lancé le soir, en plus.
Ben, clairement.
En pleine nuit, ouais.
En pleine nuit, c'est ça.
Il y a peut-être de l'alcool.
Il y a peut-être un contexte. C'est ça, parce que pas juste le désir sexuel qui fait désinhiber les décisions. Ça peut être également l'alcool. Ça peut être également l'abus de certaines substances. Ça peut être également des gens qui ont un tempérament plus impulsif. Donc, faut pas penser que la personne est en train de planifier en se disant « ce soir, je vais envoyer au moins 4-5 dick pics. » Non, il y a des gens que c'est très impulsif. Ils le font, puis après ça, s'ils ont des échos, parce qu'ils n'ont pas toujours des échos là, de ça, là, des fois, ils se disent « Oh, oups, j'ai soit eu des strikes, ou soit il y en a qui font des coups de circuit. » Puis c'est tabou, hein, ça, de dire que de recevoir un commentaire positif sur un geste qui est socialement non acceptable. Mais c'est pas un encouragement à faire ça encore une fois.
Est-ce qu'il y a un lien aussi à faire avec la prise de risque, avec l'adrénaline que ça provoque, le risque d'être étalé sur la place publique, littéralement?
C'est ça l'interdit que je vous parlais tout à l'heure, qui est une compétence en séduction, jouer avec le risque. Il y a des gens qui sont tellement conservateurs, conformes, lumière fermée, pas de bruit, que ça éteint le désir de certaines autres personnes. Puis tout comme on peut aller trop loin dans l'aspect conservateur, on peut aller trop loin dans les excès d'expression et les violations de frontières interdites.
Donc, on va tout de suite passer à l'autre sujet parce que j'ai l'impression qu'on manque de temps, comme d'habitude. Donc, on a fait le tour pour les dick pics. Ne le faites pas, c'est illégal. Oui, vous pourriez être poursuivi en justice si vous le faites et que la personne décide de vous...
Faites-le avec fléau. Des personnes consentantes.
C'est un fléau exactement. Dans les écoles secondaires, si on faisait une parenthèse là-dessus.
Parce d'ailleurs l'escouade Sexto qui offre des services. Il y a des trousses qui sont offertes là, justement dans les écoles secondaires pour outiller les professeurs pour... Parce que c'est vraiment illégal. Là. Puis tu peux recevoir une photo nue de quelqu'un, OK, avec son consentement, et toi, tu l'as sollicité, tu l'as envoyé. À partir du moment où tu la montres, c'est illégal.
Oui, puis les jeunes ont beaucoup tendance à faire ça dans les écoles secondaires. C'est la partage, puis ça devient comme une monnaie d'échange pour certaines choses.
C'est de la diffusion de pornographie infantile aussi?
Tout à fait, en plus.
En plus.
Ça part mal ta vie quand t'as 15 ans et t'es accusé de pornographie juvénile. Là.
Exact. Donc, on parle souvent, mais vraiment souvent, de trauma intergénérationnel.
Ouais.
Peux-tu nous décrire ce que c'est exactement un trauma intergénérationnel et comment s'en défaire?
Bon, commençons avec l'idée que ce n'est pas toutes les approches en psychologie qui vont intégrer ce concept-là. Donc, ce n'est pas de la psychologie universelle.
Okay.
C'est un modèle, ça, qui a été développé en mixant la psychanalyse et certaines réflexions systémiques et humanistes. Donc, en gros, ça serait de dire que s'il y a eu des traumas ou des blessures chez un de vos ancêtres, ben, cet ancêtre-là, quand il va avoir des enfants, ben, ça va les contaminer d'une certaine manière. Puis ces enfants-là aussi vont contaminer leurs enfants. Puis là, ça peut descendre plusieurs
dans
générations.
Dans les gènes, dans l'ADN.
Ben, là, il y aurait comme un débat, parce qu'en réalité, ça serait plus épigénétique. Ça voudrait dire qu'on va transmettre des fragilités génétiques, mais c'est l'expérience qu'on va avoir ensuite qui va réactiver peut-être ces fragilités-là.
Oui. Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Et logique.
Ça fait
dans
du sens.
Dans le sens où si tu évolues dans une certaine précarité, tu as des enfants, les enfants vont subir ta précarité, donc ils vont être enclins à subir le même traumatisme que toi tu as vécu par la bande.
Oui, mais les protocoles de recherche qui ont été faits sur les traumas intergénérationnels ne sont pas très rigoureux. C'était beaucoup d'opinions, d'interprétations, de témoignages.
Parce que comment tu fais pour le mesurer?
Ben, il aurait fallu des mesures plus longitudinales, rigoureuses, dans des groupes double aveugles. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être suivis pendant des années, puis il y a certaines personnes qui vont le savoir, c'est quoi qu'on mesure. Puis il y a un autre groupe de personnes qui ne sauront pas qu'est-ce qu'on mesure.
Non, mais encore là, comment tu mesures aussi la teneur puis la densité d'un traumatisme? Comment tu fais pour le pointer puis
admettons,
le cerner?
Il y a des gens qui vont avoir passé par les camps de concentration à une certaine époque, ou qui vont avoir vécu un génocide.
OK, là, on est capable de mesurer
ça. Là, eux, on sait très bien qu'ils ont un impact. Là. Puis parfois, on est même capable de mesurer, mettons, sur des jumeaux identiques qui n'ont pas vécu les traumas, l'impact, la différence là, sur le cerveau. Ils ont le même code génétique, mais ils n'ont pas les mêmes structures cérébrales là, en fonction de l'expérience du trauma versus pas l'expérience de trauma.
Mais ça vient un peu rejoindre les trucs de neurones de tantôt.
Ouais.
D'une certaine manière, oui. Puis là, la génération d'après, ben, les gens qui ont été porteurs de grands traumatismes vont avoir tendance peut-être à être plus hyper-vigilants, plus dépressifs. Il peut y avoir un portrait clinique très complexe. C'est pas tout le monde qui réagit au trauma de la même manière.
Non, parce qu'on le voit dans une famille, par exemple, où il y a un parent alcoolique, puis disons que dans le cas de figure où le parent alcoolique a deux enfants, un homme et une fille, il y en a un des deux qui va développer un problème d'alcool, puis l'autre ne développera pas de problème d'alcool. C'est un cas de figure qu'on voit souvent.
C'est ça.
Il semble qu'on parlait aussi à un moment donné d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Oui. Et on disait qu'il y avait 10 % de cette part-là qui pouvait provenir des parents, mais le restant, c'était vraiment
en
contexte.
Mais dès que tu entends des chiffres un peu comme ça, là, ça, c'est souvent de l'opinion. Il faut que tu sois prudente, parce qu'on ne peut pas vraiment le mesurer.
OK.
C'est plus de l'intuition, de l'opinion. C'est peut-être 10 % d'un échantillon, un manné qui a été étudié, ou 10 % du temps. Tu sais, c'est très, très, faut être très prudent avec ce genre de chiffres-là. Mais toi, okay. Toi ça résonne quoi comme concept, là, les traumas intergénérationnels?
Moi, je croyais pas à ça vraiment.
Non? Je pensais pas que ça pouvait suivre une génération suivante?
Non, parce que je me dis, on est dans des contextes différents. Oui, si, je veux dire, si les générations poursuivent...
Ouais. C'est à cause de... Une des hypothèses les plus solides dans ce domaine-là, ça serait l'hypothèse de la répétition. Parce que la biologie, c'est un mécanisme qui est fait pour survivre. Fait que la première stratégie de survie de l'organisme, là, c'est de répéter les mêmes processus.
Ouais.
Parce qu'il va falloir remanger, redormir. Bon, ben, la gestion de nos émotions puis de nos patterns affectifs, ça suit également cette mécanique-là. On se tient pas mal tout le temps, pas trop loin de nos patterns affectifs qu'on a déjà eus. C'est pour ça que des fois, on récupère des partenaires qui, ont les mêmes caractéristiques que l'autre d'avant.
Ah, oui.
Bon, ben, de cette manière-là, il y aurait également une transmission qui pourrait être léguée de génération à l'autre. Mais ça a été principalement étudié avec les secrets de famille, ça.
OK.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Comme par exemple, il y avait une personne qui avait vécu les camps de concentration parce qu'elle était juive. Puis là, elle, quand elle a réussi à sortir de là puis survivre, elle s'est dit intérieurement, « Hey, moi, plus jamais je vais dire à quelqu'un que je suis juif, là. » Parce qu'elle était terrorisée de se faire enfermer, voire même de se faire tuer dans le camp de concentration. Fait que c'est barré à l'intérieur. On parle pas qu'on est juif. Mais cette personne-là a eu une fille. Puis là, cette fille-là vivait toutes les fêtes juives, vivait toute la vie de quartier juif, mais on n'avait pas le droit de dire qu'on était juif. Dis pas qu'on est juif. Elle se faisait chicaner quand elle affirmait son identité. Mais elle fêtait toutes les fêtes. Puis cette fille-là, de la personne survivante, a également eu, deux générations plus tard, une fille qui, elle, se dit, « Ben voyons, la grand-mère, on est juif, comment ça qu'on n'a pas le droit de... » Ça n'a pas de bonne place. Elle, parce qu'elle a pris suffisamment de distance du trauma, qui observe que sa mère est prise dans une espèce de secret bizarre, réussit à dire « Non, là, c'est assez. Là, moi, je suis juif, puis j'affirme mon identité. »
OK, donc, ça se pourrait que si, par exemple, j'ai un parent qui est très, 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 très anxieux, généralisé, dépressif, tout ça, puis que moi, je veux m'éloigner de ça, ça se pourrait que je sois pas, mais que je transforme la génération.
Oui. D'une certaine manière, moi, je suis en train un peu de réaliser, on pourrait dire, le rêve de l'ex générationnel de mon grand-père.
Okay.
Mon grand-père voulait être curé. Puis il a été refusé parce qu'il avait un œil qui louchait un peu. Puis à l'époque, il ne prenait que des hommes parfaits, là, les curés, là, selon moi. Il a été refusé. Puis il n'a pas réussi à rentrer dans les ordres à cause de ça.
On n'avait pas la même définition de parfait, finalement.
C'est ça, il est parfait physiquement qu'il voulait. Okay. Mon père, plus tard, il a fait une maîtrise en théologie pour être curé. Puis là, finalement, il a eu ma sœur avec une autre femme. Fait que là, maintenant, il a laissé faire ce projet-là. Puis moi, aujourd'hui...
Tu veux devenir curé?
Ben, d'une certaine manière, je suis un psychologue, donc je suis membre de l'ordre. Donc, il y a une similitude entre un ordre religieux et un ordre professionnel.
C'est vrai.
Puis moi, je suis un peu comme un confesseur, comme psychologue, quelque part. Je reçois toutes les confidences des gens.
C'est vrai.
J'essaie d'aller mieux. Donc, d'une certaine manière, là, on n'est pas dans un trauma intergénérationnel. On est dans la réalisation d'un rêve intergénérationnel. Donc, moi, je suis en train de réaliser le rêve, quelque part, de mon grand-père.
Oui.
C'est d'être à l'écoute des gens, d'entendre leurs confidences, d'avoir un statut social où les gens vont écouter ce qu'on a à dire. Donc, c'est une grande prise de responsabilité.
Oui.
Et mettons Vas-y.
Bien, on dirait que je me dis, oui, ça se pourrait, parce qu'on cherche ça. Mais on dirait que j'ai de la difficulté à...
Bien, si on prend l'exemple d'un parent, prenons le père, qui est dépressif, est-ce que ça pourrait... se passer à son enfant parce que, pas par le gène, mais parce qu'il a tellement été habitué de voir son père dépressif durant son enfance, qu'on l'a conditionné comme ça, et lorsqu'il va atteindre l'âge adulte, il va avoir une propension à être plus dépressif que la normale parce qu'il a été élevé dans un environnement.
C'est ça, c'est un contexte.
Donc,
lui a été...
on parle d'un trauma intergénérationnel.
C'est ça. Ben, si les gens veulent des documentaires visuels là-dessus, là, ils pourraient aller sur YouTube et taper l'expérience du visage impassible.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Le Still Face Experiment. C'est une expérience dans laquelle il va avoir un bébé dans lequel la mère est devant. Puis là, elle interagit avec le bébé. Puis là, le bébé interagit tout à fait adéquatement. Puis là, la mère se tourne son visage de côté. Et quand elle revient, elle doit regarder son enfant avec un visage à zéro, là, impassible.
Oui, ah, c'est
puis là, on voit l'enfant qui se dit, ben voyons, c'est pas normal. Fait qu'il commence à faire des bruits, à pointer, à crier, à exprimer sa détresse. Puis là, maintenant, il se désorganise tout sur le plan musculaire même. Là. Puis là, la mère, il le ressaisit. Puis il dit, ben non, c'est correct. Oh, il se réorganise correct. Fait que les parents dépressifs n'envoient pas les signaux du visage d'interactivité avec l'enfant. Et là, on fait une petite parenthèse, il y aurait des hypothèses qui diraient que les parents qui sont tout le temps sur le cellulaire également auraient un visage comme un peu à zéro, qui envoie un feedback de neutralité de la charge affective qui ferait comme manquer dans le développement de certains enfants pour construire des repères de qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que la peine, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la peur, comment je peux la gérer à l'intérieur de moi si je ne l'ai jamais vue à l'extérieur de moi?
Effectivement que là, c'est clair que c'est un trauma transmis finalement.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la grande majeure des problèmes qu'on vit à l'âge adulte, si c'est pas l'entièreté des problèmes qu'on vit, est issue aussi de l'enfance puis de parents qu'on pourrait croire dysfonctionnels?
Ben, c'est un peu ça, tous les styles d'attachement, les blessures de l'âme puis tout, non?
Ouais, ben, il y a beaucoup de théories qui disent ça. Mais moi, quand je reçois quelqu'un en thérapie dans mon cabinet, je lui dis tout le temps, la thérapie, c'est pas par rapport à ton passé, c'est par rapport à ce qui t'attend dans ton avenir.
Est-ce que tu veux faire avec ta vie?
Ouais. Parfois, les gens sont bien surpris que je fasse pas une anamnèse, une revue complète de tout leur passé dans l'ordre, tout ça, parce que je leur dis, j'ai pas besoin vraiment, moi, d'avoir accès à toute l'histoire de depuis deux semaines, qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre maintenant quelles sont les nervures émotives qui sont activées.
Ouais, mais à chaque fois que tu te positionnes devant une nouvelle nervure émotive, est-ce que tu tentes de voir son histoire?
Ouais, ben,
donc, tu fais un retour dans le passé.
C'est somme toute évident, on pourrait dire.
Ouais.
Mais ce qui va être important de regarder dans le passé, c'est le passé qui n'a pas passé. C'est celui qui est encore en train de se répéter dans le présent puis qui crée de la confusion. Là.
Les patterns.
Oui, parce que le passé, c'est un point de référence. C'est pas là où il faut vivre.
Non,
mais c'est un point de référence très important.
Parce qu'il y a des psys qui vont juste, comme les deux, trois premières séances, ça va être que ça.
Oui, ça peut faire partie d'une bonne évaluation.
On repasse le passé, puis on travaille, puis on fouille.
Moi, j'ai des collègues qui sont très forts là-dessus.
Oui, hein?
Puis ils ont développé leur modèle qui correspond bien à leur manière d'entrer en relation avec la santé.
OK.
Moi, c'est dans les thérapies de groupe que j'ai appris à me connecter aux nervures émotives. Dans les thérapies de groupe et dans les thérapies de couple. Parce que ça met en évidence, là, c'est quoi qui se passe là, dans les relations. Puis...
Ça veut dire quoi, des nervures émotives pour toi?
C'est comme ce qui est soulevé sur le plan de la tension interpersonnelle. C'est dur à décrire. En psychanalyse, ils appelaient ça, mettons, le phénomène du transfert contre transfert. C'est quoi que je vis à l'intérieur de moi que toi, tu me projettes dessus? Pis c'est quoi que moi, je te projette dessus implicitement, auquel toi, tu vas réagir? Ben souvent, ces éléments-là de transfert contre transfert vont être basés sur nos premiers apprentissages des modèles parentaux, relationnels. Fait que oui, il y a une grosse partie du passé là-dessus qui se rejoue, notamment en thérapie. Mais en thérapie, c'est un laboratoire de santé, donc on peut appuyer sur pause. On peut ouvrir les sujets en disant, j'observe que tu fais ça à ce moment-ci, souvent quand j'aborde tel sujet. Puis là, les gens, vu qu'ils sont dans un laboratoire de santé, ils peuvent s'essayer à faire des correctifs. Puis là c'est merveilleux de voir des prises de conscience des gens. Ou des gens changer complètement de trajectoire. Ils pensaient qu'ils étaient comme prisonniers de la répétition d'un pattern. Puis là, ils perçoivent le chemin à l'avenir de ce qui leur attend.
Est-ce que tu es d'accord avec ça, de dire qu'on a tendance à multiplier les relations non satisfaisantes et toxiques jusqu'à ce qu'on soit guéri justement de...
Ben, je pense que d'une certaine manière, on a tellement besoin de rapports interpersonnels. C'est comme l'enfant, il a tellement besoin d'attention là, que si vous n'y en donnez pas, il va aller chercher de l'attention négative à tout prix pour survivre. Les études sur l'isolement, là, sur les confinements, autant les confinements pendant la pandémie que les confinements des astronautes, les confinements des gens dans les grottes, les confinements des gens en isolement dans les prisons, toutes ces études-là nous démontrent que si on est privé d'interaction avec une autre forme de vie ou un semblable,
la folie.
On éprouve de la détresse. Là, puis
c'est
épouvantable. Donc, le fait d'avoir un animal de compagnie, d'avoir une plante,
Wilson.
D'avoir votre parc préféré.
Un ballon.
Ben oui, ben, c'est d'une certaine manière, oui. Au savoir se relier. On est affamé.
Oui.
Fait que si vous donnez à l'enfant juste des mauvaises interactions ou que vous lui faites mal, il va se nourrir à ça pour survivre.
Mais une personne qui répète sans cesse les mêmes patterns, c'est-à-dire qu'elle tombe en couple avec une personne toxique pour elle, qui, tu sais, je te suis, tu me fuis, bon, c'est un pattern comme ça qu'elle a tout le temps.
Ouais.
Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait tendance à multiplier ses relations non satisfaisantes? Parce que pour elle, même si c'est toxique, ça demeure une zone connue, dans le fond.
Oui, c'est ça.
Fait que l'inconnu de la zone, l'inconnu d'une relation saine et apaisante...
C'est trop menaçant.
Ça fait peur.
Est-ce qu'on parle d'un aveuglement involontaire?
D'une certaine manière. Ça peut être aussi une résignation acquise, hein, de ne pas croire que c'est possible d'avoir autre chose. Une personne résignée, là, ça demande toute qu'une pogne, ça, rallumée en thérapie. Hein. Mais il faut conscientiser que le pattern, ce qui est familier, c'est un avantage secondaire parce que, au moins, ça me dit quelque chose. Ah oui, je connais ça, cette affaire-là. Fait que ça calme une partie du système nerveux.
Mais souvent, ces relations-là, c'est up and down. Fait que c'est plutôt qu'une relation plus douce, mais ça, c'est hyper chaleur, tu sais, hyper tension, là. C'est passionnel, puis paf, ça.
Mais quand vous pensez avoir trouvé la bonne personne, là, tu sais, qui va répondre tous vos problèmes, puis qui enfin vous comprend, c'est probablement temporaire.
Mm-hmm. Vraiment. C'est tellement intéressant. Doc, il nous restait un point à regarder, mais j'ai envie qu'on le garde peut-être pour ta prochaine visite.
Oh, d'accord.
La construction de l'identité.
Hey, ça,
ça, on va en avoir pour longtemps, ça.
Ouais, je pense qu'on va le garder pour un show
que
parce que je vois le temps défiler. Puis j'aimerais quand même qu'on parle de ta plateforme, d'où est-ce qu'on peut te contacter finalement, mm-hmm. parce que t'as de la place, je crois. Toi, t'es contre les listes d'attente.
Hey, oui.
T'es vraiment là pour les gens.
Moi, quelqu'un qui veut un rendez-vous, je le vois cette semaine.
Y a-t-il quoi de plus frustrant que d'avoir besoin d'aide, d'appeler et d'avoir un rendez-vous dans 6 mois?
Où on n'a pas de liste d'attente, hein, on a. Nos psychologues ne prennent plus de liste d'attente. Ah, ils sont, je l'entends souvent de la part des gens.
C'est triste.
Mais moi, si les gens veulent me rejoindre, admettons qu'ils voudraient un vrai rendez-vous avec un vrai psychologue, ben, il faudrait qu'ils passent par les courriels. Parce que moi, j'envoie tous les détails reliés à la prise de rendez-vous par courriel.
Okay.
Et si mes conditions de service leur conviennent, ben voilà, on fixe rapidement un rendez-vous. Mais par contre, c'est pas seulement les consultations parfois qui peuvent être aidantes. Hein. Fait que j'ai tout un écosystème de services. J'ai tout enregistré ce que j'explique sur la santé dans un programme de formation. J'ai un programme également de questions personnalisées où je réponds à chaque semaine.
C'est vraiment intéressant, ça. C'est super le fun. Puis ça, c'est sur. Ça, c'est gratuit. Puis c'est sur les réseaux sociaux, là.
Oui.
OK.
Question comme ça, champ gauche, là. Dans ton écosystème, quand est-ce qu'il va y avoir un livre?
Je suis en train d'écrire.
C'est vrai?
C'est vrai?
Oui. On avait une trilogie de prévue, nous autres, puis on l'a jamais fait.
Ça fait 6 mois que j'attends que tu m'envoies ta partie du livre.
Je l'ai. Oui,
t'es en train de l'écrire.
Et moi, c'est que j'en ai 3 livres en écriture, mais là, cette année.
Trois livres en écriture. Ouais, c'était pas assez.
Mais c'est parce que j'ai des idées dans toutes les directions. Mais okay. Là, mon livre là, que j'ai en tête, ça va faire la synthèse de tout ce que j'enseigne de manière générale, mon modèle clinique aux gens. Puis, c'est rendu actuellement le projet 3 que j'ai à faire d'ici la fin de l'année. Présentement, j'ai un projet 1, j'ai un projet 2.
C'est quoi?
Ben, c'est un sujet compliqué. Mais disons que c'est tout relié avec mon écosystème de services pour enrichir les choses, pour rendre la psychologie accessible, pour que les gens aient des alternatives. Parce que moi, je voudrais qu'ils aient accès au savoir du psychologue. C'est pas que les consultations qui sont aidantes. Puis je veux offrir ça au maximum aux gens.
Vraiment. Très bonne idée. Puis c'est super intéressant, c'est accessible.
T'es rendu où d'informations, toi?
Bravo.
Dans les formations, écoute, j'en ai fait deux. J'en ai pas complété deux, en fait.
OK.
Ouais. Mais j'adore ce que j'ai fait.
Moi, j'ai commencé une plateforme sexualiste. Mais je me suis abonnée, finalement, ce que je t'ai envoyé.
T'as pris la formation?
Oui, sur l'érotisme, puis j'adore ça, vraiment. Oh. Je pense que ça pourrait bien compléter mes formations que je suis en train de suivre, là, justement, en sexologie. Oui, très intéressant. On a ça à portée de main, mesdames et messieurs.
Oui, puis c'est le fun que tu veuilles donner ces connaissances-là aux gens, parce que ça fait aussi partie du travail de docteur, de psychologue, de transmettre le fruit de ses recherches, puis d'aider un peu le monde dans lequel on vit.
Ben, c'est de la psychologie communautaire.
Pis c'est exactement ça. C'est le propre de ton travail, je trouve. Puis je le disais dans tes pensées, je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, là. Tu pouvais pas être un aussi bon psychologue sans livre.
Ah, c'est pas garanti, ça. Hein? Ça, c'est une espèce de gentil.
C'est ça.
Docteur Paul Simard, psychologue qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux et par courriel. Est-ce qu'il y a un courriel en particulier que tu veux nommer ou les gens le trouvent
C'est
via
facile
ton
à trouver,
web?
C'est ça. Ils ont juste à taper sur Google Docteur Paul Simard, psychologue.
Excellent.
Mes coordonnées sont partout, mon courriel est partout, mon numéro de téléphone est partout.
Parfait. Merci beaucoup. C'était un plaisir, comme toujours. Et merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Autant sur nos lives TikTok, dont j'ai manqué de batterie. J'ai dû le fermer. Mais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute également via la radio, via le radioex.com et via la messagerie. Merci, Max.
Merci à toi.
Toujours un plaisir.
C'était
la sexploratrice sur les ondes de choix. 98h Radio X.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Sexploratrice. Radio X.